problème de chômage. Ça ne sert à rien de parler de problème de chômage si on ne change pas les modèles de production, les modèles d'activité économique. Qu'est-ce que je veux dire en disant cela? En ce moment, je recommande à tous mes amis de lire un livre. Malheureusement, on ne le trouve plus que chez les bouquinistes parce que l'éditeur qui l'a publié a fait faillite, je crois. C'est l'édition Exil. C'est un livre d'un philosophe finlandais qui s'appelle Pekka Immonen. Et ce livre s'appelle L'éthique hacker. Et il montre que ce qu'on appelle les hackers, c'est-à-dire au départ les passionnés d'informatique. Mais chez lui, hacker, ça veut dire un passionné en général. Par exemple, qui sont devenus
les pirates informatiques ensuite.
Ils sont hackers, c'est un pirate. Des transgresseurs, autrement dit. Albert Ehler, c'est un hacker, c'est un passionné de jazz. Le passionné, en règle générale, c'est un hacker, pour Pekka Immonen. Il dit, l'économie de demain est là, et il a raison. Je crois absolument qu'il a raison. Moi, je dis aussi des choses comme ça depuis des années. Je pense qu'il est en train de se développer en ce moment sur Internet des pratiques économiques tout à fait nouvelles où on dépasse ce que j'évoquais dans la première partie de l'émission, à savoir la dissociation des milieux symboliques, où on reproduit l'association. Dans le monde du logiciel libre, il n'y a pas des consommateurs d'un côté et des producteurs de l'autre. Tout le monde contribue à l'individuation des logiciels, c'est-à-dire à leur évolution. Participe véritablement. Autrement dit, le problème de la participation, c'est pas un problème de participation simplement démocratique, mais de participation économique. Il faut totalement changer l'organisation industrielle du travail qui reposait sur l'opposition des producteurs et des consommateurs. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans le monde des réseaux. C'est là que les mômes sont, d'ailleurs. Hein, c'est ça qui les intéresse. Bon. Et c'est là qu'ils trouvent véritablement de la passion, et pas simplement de l'affect pulsionnel, mais véritablement de l'investissement individuel et collectif. Et ça, c'est un continent économique nouveau qui est en train de se développer. Or, ça ne produit pas de CO2. Ça produit de l'intelligence, ça produit du désir, ça produit de la filia, c'est-à-dire de l'affectio sociétative, de la relation entre les individus.
De l'amitié.
Ça nécessite des réseaux à haut débit, mais les réseaux à haut débit, ça ne pollue pas. Bon. Donc il y a quelque chose là. Comment se fait-il que Béroux en parle un tout petit peu dans ses, vous allez dire, oui, Béroux, Stigler n'arrête pas de parler. Ah ben oui, il y a deux. Ben oui, j'ai voté Béroux.
Ah, voilà,
il y a deux, sur ces 20 propositions, il y en a deux qui concernent ces problèmes. Et je pense qu'il est le seul à vraiment poser cette question. Mais il la pose pas du tout suffisamment. En tout état de cause, je pense que s'il y a un débat d'idées demain qui conduit à quelque chose, c'est ça et l'Europe. Parce que, moi, j'ai voté non aussi. Hein,
pour quelle raison? Pour quelle raison,
parce que je considérais que l'Europe qui était proposée n'était pas une Europe. C'était simplement une extension de la possibilité du développement du marché. Et je pense que c'est une erreur. Et je pense que cette Europe qu'on nous proposait dans cette Constitution ne se donnait absolument pas les moyens d'avoir un pilotage industriel et économique.
Qui est celle défendue par François Bayrou.
Absolument. Absolument. Alors...
Vous y voyez contradiction?
Non mais, bien entendu qu'il y voit contradiction.
Lui a voté oui quand même. Il faut rappeler
François
Bayrou.
Oui, c'est ce que je disais. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis pas du tout un militant de l'UDF. Non, simplement, à un moment donné, voilà, je pense qu'il est le seul à avoir posé un certain nombre de questions et en plus d'avoir été très digne dans cette campagne, très digne. Et ça, c'est très important parce qu'un candidat à la présidence de la République doit être digne. C'est très très important.
C'est étrange quand même qu'on ait une révolution qui vienne du centre. Parce que finalement, dans ce que vous dites, c'est tous les éléments de révolution réelle, selon vous, viendraient de ces deux points parmi les 20 du programme de François Bayrou.
La révolution, elle viendra de la société. Elle viendra pas des représentants politiques. S'il y a révolution, et d'ailleurs, je sais pas s'il faut employer ce mot de révolution. Mais je pense qu'en tout cas, il y a une rupture. Bon, le mot était beaucoup employé. Une rupture qui est en cours. Je pense que tout le monde... Il participe d'une manière ou d'une autre, je veux dire, à l'énonciation de la question de la rupture. Il se trouve que François Bayrou, à un moment donné, a, je crois, posé un peu les bonnes questions. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je pense que la révolution viendra, ou que la rupture viendra de François Bayrou. Je pense qu'elle viendra de la société.
Mais pourquoi est-ce que vous craignez tellement cette forme de télécratie dans ces cas-là, Bernard Stiegler, puisque on le sait très bien que Internet, à moyen terme, est en train de prendre vraiment le pouvoir sur la télévision.
Oui,
donc
mais
en
Internet
réalité,
peut être,
il n'y a pas de problème.
Tout à fait télécratique. Je veux dire, c'est l'objet d'un combat. Internet peut être l'augmentation encore bien plus grave de ce qu'est la télécratie actuelle.
Ça a déjà commencé.
Ça a déjà commencé. D'ailleurs, il y a de très bons papiers qui sortent en ce moment sur ce sujet, parce que c'est un sujet de très grande actualité, puisqu'il y a des rendez-vous importants, des échéances importantes sur le contrôle des adresses électroniques, etc. Et donc, il faut que l'Europe ait une politique de l'Internet, mais c'est pas simplement l'Internet, de toutes ces technologies qui constituent ce qu'on appelle une troisième révolution industrielle.
Bernard Sigler, vous êtes philosophe, vous êtes aussi ce qu'on appelle un haut fonctionnaire, puisque vous êtes directeur de département au centre Georges Pompidou, donc vous êtes aussi un homme de culture. Est-ce que ça vous a étonné, ça a été souligné hein, beaucoup par les commentateurs, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu venir grand-chose, que ma foi les histoires de culture sont passées totalement à l'as dans cette campagne, à peu de choses près. Je pourrais aussi poser la question à Alain Guiraudy, qui est cinéaste. Et par ailleurs, vous rappelez que Ségolène Royal, en 1989, c'est-à-dire assez tôt après l'irruption de la télévision privée, par exemple en France, avait écrit un pamphlet, un véritable pamphlet, qui s'appelait « Le ras-le-bol des bébés zappeurs » contre une certaine forme de télévision qui correspond exactement à ce que vous décrivez. Est-ce que c'est là aussi d'où vient votre déception, absence de la culture dans les programmes et absence de votre forme de critique radicale de la télévision ?
Oui, tout à fait. Et j'en ai d'ailleurs parlé dans La Télécratie contre la démocratie et surtout dans Réenchanter le monde. Tout le monde dit aujourd'hui, tous les gens en tout cas qui observent de près la vie économique et industrielle disent que demain, la société doit produire plus de connaissances, plus de créativité, plus d'intelligence, etc., etc. Et en même temps, ce qu'on voit se développer, ce sont des industries de services et des médias de masse qui détruisent progressivement tout cela.
Oui, mais quand vous voyez phénomène comme Wikipédia, par exemple, Bernard Stiegler, vous voyez bien quand même là la force d'un projet
alternatif,
oui. Basé sur une communauté de gens passionnés, de hackers.
Mais c'est de ça dont je parle. Mais comment se fait-il
c'est
qu'on
ce
n'ait pas
ce type de communauté d'amateurs comment que vous appelez de vos voeux.
Et comment se fait-il qu'on ne bâtisse pas une politique culturelle là-dessus? Alors, il se trouve qu'au centre Georges Pompidou, à l'Institut de Recherche et Innovation dont je suis fondateur, précisément nous travaillons sur ce sujet. Bon, mais comment se fait-il que ce genre de sujet ne fasse pas débat dans cette campagne? D'abord parce que ces politiques ne s'y intéressent pas. Ils ne s'intéressent qu'aux médias qui leur servent et qui restent aujourd'hui les médias de masse de l'élection. La télévision et la Ve République, ça a commencé en même temps. Ce sont des gens qui sont nés dans ce monde de la télévision et des médias de masse. Ils ne voient pas venir ce qui est en train de se produire avec Internet. Moi, Wikipédia, bien entendu, je trouve ça formidable, moi, Wikipédia. Absolument formidable. Et il est en train de se produire là quelque chose alors là, pour le coup, révolutionnaire. Mais en Europe, il n'y a aucune réflexion là-dessus. Ça vient des États-Unis, ça vient de San Francisco, ça vient de Corée, ça vient maintenant du Japon, de Chine, mais ici, c'est encéphalogramme plat sur ce sujet. Et c'est extrêmement grave, parce qu'on est en train de se désindustrialiser sur ces technologies industrielles de l'intellect. Alors qu'on sait très bien que c'est là que demain se fera la survie économique de l'Europe. Si l'Europe n'arrive pas à développer une grande intelligence industrielle, à se donner des outils, ce que dans notre association Ars Industrialis, nous appelons des technologies de l'esprit largement diffusées, et de reconstituer l'intelligence collective, l'Europe sera laminée. C'est ça l'enjeu de cette élection.
C'est par exemple le logiciel libre, par exemple, c'est un combat important. On sait que Michel Rocard a fait un dossier sur le numérique pour Ségolène Royal. Je ne sais pas si vous l'avez lu, vous qui vous passionnez pour ces nouvelles technologies. Moi pas, je dois bien avouer. Mais il a travailler sur cette question numérique, on sait que c'est un grand défenseur du logiciel libre.
Avec mon ami Philippe Aigrin, qui est...
Qu'est-ce que c'est qu'un logiciel libre, en deux mots ?
Un logiciel libre, c'est un logiciel dont les codes sources sont accessibles à n'importe qui, et que...
C'est-à-dire qu'on n'a pas à l'acheter, ni à le voler.
On n'a pas à l'acheter, on n'a pas à le voler, en plus on peut le transformer, on peut proposer à la communauté de ceux qui l'utilisent les transformations...
De l'améliorer,
et donc on participe intimement à son évolution. C'est un enjeu fondamental. C'est un enjeu fondamental pour demain, cette économie-là.
Oui, Alain Guiraudy, en s'approchant du micro.
Tout ça passe quand même par de la politique, quoi. C'est-à-dire, c'est pas la modernisation. Enfin, il faut aussi que le cadre politique offre une possibilité de développement de choses, quoi. Tout à l'heure, vous disiez que personne ne parlait d'autre chose. Alors, Arnaud Vivien a fait allusion au libéralisme. Alors, peut-être que vous situez pas les choses sur ce mode-là. Mais quand même, le libéralisme, enfin, en tout cas, le capitalisme, moi, je pense pas qu'effectivement, il peut s'éteindre mort de sa belle mort d'une façon naturelle. Je pense qu'il peut durer très longtemps si on n'y met pas fin un jour, quoi. Et que, effectivement, comme modèle de société, le capitalisme étouffe quand même tout ce qui pourrait émerger de neuf, non? Tout comme à la libération, au moment de la Révolution française, s'il y a eu la Révolution bourgeoise, c'est aussi parce que politiquement, il n'y avait pas un cadre en France qui offrait une révolution, qui offrait un cadre pour une vraie révolution industrielle, quoi.
Vous savez, moi j'ai combattu le capitalisme longtemps. Je suis allé même très très loin dans ce combat, avec une référence à Marx. Bon, aujourd'hui, je crois pas du tout que le capitalisme est éternel, du tout, mais je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas d'alternative au capitalisme. Et que aujourd'hui la question c'est d'inventer une nouvelle époque du capitalisme, ce que j'appelle le troisième esprit du capitalisme. Le problème est aujourd'hui que le capitalisme a perdu son esprit, donc il est devenu pulsionnel.
Et il est en train de s'autodétruire.
Et que donc le problème c'est surtout pas de le détruire, c'est de l'empêcher de se détruire parce qu'il nous détruira avec lui. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que les problèmes sont pas simplement industriels et économiques. Il y a évidemment des problèmes politiques. Si je citais Pekka Himanen tout à l'heure, ce philosophe finlandais, qui est un type tout à fait étonnant, il a 31 ans, il est extrêmement jeune, il a écrit ce bouquin à 27 ans, c'est parce que il se réfère au livre de Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Et il reprend la génétique, au sens historique du terme, là, il fait la genèse, il refait la genèse du capitalisme, et il dit, nous entrons dans un nouveau capitalisme qui ne repose plus sur ce que...
Je me lance au risque de dire une bêtise, la thèse de Weber, c'était « Enrichissons-nous parce que ça fait plaisir à Dieu ».
Alors ça, c'était la thèse de...
En un mot, hein.
C'était la thèse de Benjamin Franklin, et de Calvin, que commente Max Weber, et en disant, c'est ce qui a donné l'éthique de la besogne. C'est-à-dire, c'est ce qui mettait le travail comme souffrance au cœur de la
spiritualité à Dieu. Nous y revoilà.
Non, c'est tout à fait ça.
Et du capitalisme. À la malédiction du travail.
Et là, Immanuel dit, mais en fait, non, il faut aujourd'hui développer une éthique de la passion. Et ça, c'est très intéressant. Parce que on est aujourd'hui, qu'est-ce qui domine? On dit le capitalisme est culturel à 40% de son chiffre d'affaires. Si on met les lanceurs de fusées, les satellites, les téléphones portables, tous les supports industriels. Bon. La culture, c'est 40% du business mondial. Le capitalisme est culturel. Les technologies qui se développent aujourd'hui sont des technologies de l'intellect. Il est évident que l'avenir est là. Et que ce n'est plus dans la transformation de la matière, mais dans la transformation de l'esprit.
La Mastigler, c'est une révolution culturelle, vous pensez?
C'est bien entendu une révolution culturelle. C'est une révolution industrielle. Et c'est peut-être même une révolution anthropologique.
Merci beaucoup, Bernard Stiegler, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de ce livre, De la démocratie participative, Fondements et limites. C'est publié chez Mille et Une Nuits. Ça vaut 10 euros. Bernard Stiegler est l'auteur de livres plus difficiles, mais je pense que vous avez voulu celui-là le plus clair possible. On va écouter Elista, Les Hommes Ordinaires, et ensuite Pochon nous dira où il en est.
Par terre, il répète qu'il donnerait cher pour une femme, un adultère. Savent-ils que de toute manière le bonheur est un mystère? Les hommes ordinaires attirent des hommes ordinaires à la destinée singulière, des étoiles sous les paupières. Ils prévoient moins qu'ils espèrent souvent. Pourtant, rien à la faire.
Pour l'esprit
Voilà les hommes ordinaires, Hervé Pochon dans ses œuvres, un jour de premier tour.
Bon, le maire de la Fraissinose, de la toute petite commune de la Fraissinose dans les environs de Gap, est heureux d'accueillir la bande à Bonneau.
Et le son de Pochon.
Et le son de Pochon. Ouais.
Et si je suis dans cette petite mairie des Hautes-Alpes, c'est parce que j'y ai passé une semaine de vacances et qu'il fallait donc rentrer hier et que j'avais un reportage à faire et je me suis dit, eh bien, très bien, faisons mon feuilleton sur ce dimanche électoral.
Vous entendez, Arnaud, la valeur travail selon Pochon.
Utile à la guerre.
Il est pas si sarkozyste, en fait.
Maintenant, la valeur travail, elle est intégrée dans ma vie. Toute ma vie est travail. Vous voyez, même le dimanche, à 7h30, je suis sur cette petite place de village avec la mairie, l'école et l'église. C'est pas un cliché, c'est la réalité, et je suis en compagnie de monsieur le maire qui me définit sa commune.
On est une commune où il y a 500 habitants et 1100 bovins.
Alors voilà, vous allez me dire, ils vont tous voter comme des veaux. Eh bien non, ils votent...
Je vous aurais pas dit ça.
Non.
C'est pas poli.
Non, c'est vrai. Alors pour vous dire, en 2002, eh bien, Jacques Chirac a réalisé 18% des voix, Le Pen 16% et Jospin 9%. Donc ça, c'était pour 2002. Aujourd'hui, l'isoloir est installé. Je suis assis juste à côté et j'attends. On discute avec monsieur le maire.
Ah ben, l'isoloir, on se l'achète. Hein. Ah, mais bon, il y a une petite subvention de la préfecture qui est donnée. Mais comme nous, on est une petite commune et qu'on est une commune économe, l'isoloir, il est vieux. Hein.
Ça coûte combien, un isoloir?
Je sais pas. Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est pas moi qui l'ai acheté. Hein. Et s'il est cassé, on le répare. Regardez, il manque la tringle, on a mis un fil électrique.
Eh oui, la démocratie, on en est là, avec un petit fil électrique qui soutient le rideau. Si ça tient tout le dimanche, ça sera bien. Et il y a l'urne qui est là, j'ai vérifié. Elle est vide.
Elle est fermée à clé et les deux clés sont données, une au maire et une au premier adjoint. Et ce soir, à l'ouverture, chacun redonnera sa clé.
J'ai pas bien compris pourquoi le maire vous donne la clé et vous le premier adjoint.
Eh bien, parce qu'il y a deux clés. Donc, pour pas qu'il y ait de tricherie, chacun a un jeu de clés différent.
Comme ça, il y en a deux qui peuvent tricher au lieu qu'un seul plus.
Il faut que les deux trichent en même temps à ce moment-là.
Et voilà, vous avez compris. Moi, j'ai mis du temps à comprendre. Et donc, c'était Jean-Paul Gaillard, le premier adjoint, et le maire, c'est Jean-Pierre Coiret. C'est une mairie UMP, je vous le dis. Comme ça, les choses sont claires.
On vous retrouve.
C'est pour ça qu'ils ont des noms composés, des prénoms composés. C'est tous des Jean-Claude, des Jean-Pierre.
Vous pensez? Je ferai mon prochain feuilleton sur cette question-là.
J'espère bien.
Et je m'intéresserai au Jean-Claude aussi, le fameux Jean-Claude de Panique, comment j'en parle. Mais là, discutons avec le maire. Est-ce qu'il aime ces petits dimanches électoraux?
C'est une journée très importante parce qu'on rencontre tous les gens de la commune. Il y a souvent un débat sur la place communale où chacun raconte le ruisseau à déborder. On fait un peu le tour des problèmes. Puis il y a des choses qui sont remarquables. Le premier électeur qui rentre toujours dans la mairie, le premier, c'est toujours le même.
Et voilà. Le premier électeur, évidemment, il est 8h, on ouvre le bureau, les cloches sonnent et Amédée Vaugel se présente.
Je vous remets la carte d'électeur.
Merci.
Voilà. Et c'est toujours vous qui venez le premier voter, m'a dit monsieur le maire.
Mais oui, parce que je repars. Vous repartez où? Elle vote à Sénas et on part pour Sénas maintenant.
Je peux rentrer dans l'isoloir avec vous?
Oh non.
Bon, j'ai essayé, quoi. Vous comprenez, je suis un journaliste d'investigation. Si je peux voir un petit peu ce qu'il va mettre dans son enveloppe. Et Sénat, je vous le dis, c'est dans les Bouches du Rhône. Ah, arrive un nouvel électeur.
À voter.
Vous êtes venu voter en vélo, monsieur?
Non, pas en vélo.
Ah bon? Vous avez une tenue pourtant sportive.
Mais oui. Mais ah là, bon. Justement, je pars en montagne, donc avec les petits et tout. Donc, on va aller voir les bouquetins dans la vallée du Champoléon.
Ah, c'est pour ça que vous êtes venu si tôt?
Voilà.
Je peux vous demander pour qui vous avez voté?
Ah oui, il n'y a pas de cachotterie. Moi, pour José Boivet. Mais pour justement protéger la nature. Et puis, pour que ça change un peu, pour marquer le coup sur tout ce qui se passe, pour protéger notre mère nourricière. Et lui, José Boivet, il donne de sa personne. Donc, j'ai une dette. Et voilà, je viens de lui donner, rembourser une part de ma dette. Voilà.
On tenait Guiraudy pour Buffet.
Voilà. Celui qui a voté José Bové dans les Hautes-Alpes. Mais là, je me pose la question, mais comment va se passer le comptage? Je vais voir l'urne qui est transparente, c'est très pratique, c'est pas comme le vote électronique, effectivement, on sait pas où on en est. Là, je vois qu'il y a 4 bulletins, et je regarde sur le compteur, et il y a marqué 4. Alors, je me dis, oui, j'ai entendu que 2 électeurs. Oui, parce que le maire et le premier adjoint, bah, comme il y avait personne, ils ont voté aussi. Hein. Alors, comme ça, c'est fait. Et après, le comptage, c'est très intéressant.
Le comptage, ben, c'est... c'est la grande messe, quoi. Tout le monde est là autour de la table, on compte les voix, après on fait le PV et on porte les résultats à la gendarmerie. Puis après on va boire un petit coup à la préfecture. Comme ça, on retrouve d'autres mères, on discute. Enfin, c'est convivial.
Et voilà. Bon, il faut que vite, je monte dans la voiture avec les enfants. Et maintenant, c'est Grenoble. Demain, deuxième épisode à Grenoble.
Merci beaucoup, Hervé Pochon. Voilà, vous entendez les bips. On peut pas mieux tomber. Vous écoutez France Inter, il est 18h. Le programme du 18-20 avec Jean-Marc Four.
Bonsoir Frédéric. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Le 18-20, c'est bien sûr d'abord la première édition du journal. Les titres, ce soir, Laurence Thomas.
On the road again, à peine qualifié pour le second tour. Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal seront ce soir en meeting. Nous rejoindrons Jean-François Aquili à Dijon, qui suit le candidat du MP. Second tour, la plus grande incertitude règne sur l'attitude des électeurs de François Bayrou le 6 mai. Les voix de l'UDF sont très courtisées. Dans ce journal, le député UDF, Jean-Christophe Lagarde, invité du journal de 13h, Michel Rocard, il soutient Ségolène Royal, mais il est très inquiet quant à ses chances. La mort de Boris Eltsine à 76 ans, le premier président de la Russie post-soviétique, avait une réputation controversée dans son pays. Les Russes le maudissent encore pour le chaos causé par ses réformes. Le temps demain.